Frères et sœurs, l'Éternel nous accueille et il se réjouit de nous voir réunis, nous qui sommes fidèles d'entre les fidèles, nous qui sommes peut-être de passage, nous qui nous installons sur Paris, nous sommes toutes et tous les bienvenus par l'Éternel, de qui nous recevons la grâce et la paix, aujourd'hui et chaque jour de notre existence. Avant que nous le cherchions, il nous a cherchés, avons-nous l'habitude de dire. Avant que nous le connaissions, il nous a connus. Avant que nous venions ici, il nous a invités, et cela reste vrai, même lorsqu'il y a une démarche personnelle, une profession de foi, comme ce sera le cas pour Jean-François, que nous avons le plaisir d'accueillir plus spécifiquement, et qui atteste que nous sommes toujours au bénéfice d'une grâce qui nous précède. Et c'est la raison pour laquelle nous allons maintenant nous lever pour chanter notre reconnaissance à Dieu avec le premier répond indiqué dans le livret liturgique jaune qui figure au début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Fais que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Oui, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles à ta cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Éternel, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Amen. Je vous invite à chanter un autre psaume que le psaume 25, c'est le psaume 72. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du psaume 72 dans notre psautier français. C'est dans le prophète Ésaïe que nous entendons un écho de la volonté de Dieu à notre égard. Brise les chaînes injustes. Dénoue les liens de tous les jougs. Délivre ceux qu'on opprime. Mets fin à tout esclavage. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille dans ta maison le malheureux sans asile. Couvre celui qui a froid et ne te détourne pas de celui qui est ton frère. Éternel, nous avons souvent entendu ta parole, nous l'avons peu écoutée. Nous avons beaucoup prêché la liberté, mais nous l'avons assez peu vécue. Nous avons appelé les autres à la paix. Mais combien de fois en avons-nous été les artisans ? C'est là ce que nous pouvons appeler notre péché. Alors, pour n'avoir pas écouté ta parole, pour n'avoir pas vécu en homme libre, pour n'avoir pas agi en ouvrier de paix, pardonne-nous. Accorde-nous ta grâce. Amen. Lorsque nous nous mettons à l'écoute de la prédication de Jésus, nous découvrons qu'il ne parle pas de la justice, il parle du royaume de Dieu. Il parle du projet de Dieu en voie de réalisation. Il ne parle pas d'un Dieu justicier, il parle d'un Dieu autre, un Dieu qui se rend autre, un Dieu qui aime, et qui pardonne. Amen.
Vous pouvez prendre place. Frères et sœurs, comme le Christ nous a accueillis dans son Église, nous accueillons aujourd'hui en son nom avec grande joie M. Jean-François Voyer. Après avoir été conduit par Dieu à connaître la vérité de cheminement qu'est l'Évangile, il demande à être reçu comme membre de l'Église chrétienne au sens large et en particulier membre de l'Église protestante et plus particulièrement encore membre de l'Oratoire du Louvre, ce qui nous fait bien sûr une grande joie et c'est pour nous un honneur. Et c'est particulièrement riche, je pense, pour vous peut-être qui êtes de passage, qui êtes ici, venez simplement au culte pour chercher Dieu s'ouvrir à sa parole, et bien d'avoir ce, ce témoignage important de foi, d'engagement, de recherche. Merci, Jean-François. Alors, je vous propose de me rejoindre. Mais d'abord, cette méditation sur Jésus comme Christ. Au moment où notre frère va être reçu comme membre de l'Église, nous l'entourons de notre affection et de notre prière, et nous nous mettons à l'écoute, ensemble, de ces paroles de l'Évangile selon Jean, et avec elles, nous confessons notre foi en Jésus comme Christ. Jésus-Christ est le pain de vie, nous dit l'Évangile selon Jean. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim et celui qui a foi en lui n'aura jamais soif. Jésus-Christ est la lumière du monde. Quiconque le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la porte des brebis. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera, il sortira en liberté et il trouvera la vie. Jésus-Christ est le bon berger, il connaît chacune de ses brebis, et elles le connaissent, et il donne sa vie pour chacune. Jésus-Christ est la résurrection et la vie, celui qui a foi en lui vivra, quand même il serait mort. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Par lui, chacun peut aller à son Père. Jésus-Christ est la vraie vigne, et son Père est le vigneron, celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Et l'apôtre Paul nous encourage ainsi à vivre cette foi en Christ. Toi donc, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé. Jean-François, avec l'Église chrétienne, voulez-vous confesser votre foi ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Alors c'est vrai que c'est la confession de foi minimale qui est exigée, si je puis dire, de ceux qui désirent professer leur foi, car effectivement, dans ces seules paroles, je crois qu'il y a quelque chose qui rassemble absolument tous les chrétiens de toutes les sensibilités. Le reste, finalement, ça appartient à la sensibilité de chacun, mais il est important néanmoins d'essayer de réfléchir ce qui constitue notre théologie, notre foi, notre espérance en Dieu, avec une confession de foi, finalement, c'est-à-dire un résumé, un essentiel, le cœur de ce qui nous anime dans notre foi en Christ. Et c'est pourquoi nous demandons aux personnes qui professent leur foi, eh bien, de préciser un peu dans une petite confession de foi qu'ils ont préparée, qu'ils ont écrite. Et ce sera donc notre confession de foi pour notre Église ce matin. Je vous propose donc de vous lever pour vous unir à cette confession de foi chrétienne qu'a proposée Jean-François Voyer pour nous ce matin.
Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur, Éternel, Esprit, amour manifesté en ce que Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, venu pour nous sauver. Il est chemin de vie, d'amour et de vérité. Je crois que le message de l'Évangile a affaire avec l'être humain que je suis dans tout ce qu'il constitue en tant qu'être humain. Je crois au Saint-Esprit, Dieu agissant en notre cœur qui fait que jour après jour, dans l'amour de Dieu, dans la mesure de nos forces et de nos moyens, nous pouvons œuvrer à rendre le monde meilleur. Je crois à la venue du royaume de Dieu, royaume de justice et d'équité.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Alors pour dire finalement qu'une profession de foi, c'est plus un point de départ que l'aboutissement d'un cheminement qui se clôt aujourd'hui, nous proposons aux personnes qui font une profession de foi ou un baptême d'adulte, eh bien, de prendre des engagements qui sont plus pour marquer donc une ouverture vers une suite. Croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui car il est notre sauveur, et c'est s'engager à chercher à le suivre car il est notre Seigneur. Voulez-vous donc, Jean-François, avec le secours du Saint-Esprit, vous efforcer de vivre en chrétien, en aimant Dieu de tout votre cœur et en aimant votre prochain comme vous-même?
Oui, que Dieu me soit en aide.
La vie de l'Église, en particulier la lecture de la Bible et la prière, le culte et la communion sont des moyens que Dieu nous donne pour persévérer dans notre foi, foi que vous venez de confesser, et pour essayer de cheminer de plus en plus fidèlement sur ce chemin qu'est le Christ. Jean-François, vous avez reçu autrefois le baptême, signe de la grâce de Dieu, de l'amour particulier de Dieu pour la personne que vous êtes. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne. Vous avez désormais votre place à la table du Seigneur et votre part au travail de son Église. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Alors vous avez accepté de dire quelques petits mots pour dire un petit peu comment est-ce que vous vous retrouvez ici finalement ce matin pour cette profession de foi, et c'est une occasion pour nous de mieux un peu peut-être nous connaître, mais aussi pour profiter peut-être d'un conseil finalement de votre expérience. Yes.
Pour résumer ce qui m'aurait amené ici, je devrais d'abord remercier mon épouse qui, par sa foi et sa piété, a finalement ébranlé quelques certitudes qui n'étaient peut-être pas aussi fortes que cela. Et cet ébranlement a été un mouvement et le début d'une réflexion qui m'a conduit à questionner ce qui était finalement une profonde insatisfaction existentielle. Et je me suis dit que, non, je ne me suis pas dit, j'ai compris plutôt, que quelque part, il fallait accepter que quelque chose nous dépasse et rendre grâce à ce qui nous dépasse et qui fait que nous sommes ici. Voilà, bon, c'est un résumé, je ne veux pas être trop long, mais je voudrais aussi profiter de cette occasion pour exprimer une prière pour les enfants qui se perdent peut-être, qu'ils ne perdent pas courage et que finalement la vie peut leur offrir plus qu'ils pensent l'espérer. Merci.
Un grand merci, merci. Et puis c'est vrai que c'est souvent dans la famille que les témoignages portés par un amour, que ce témoignage que nous essayons de porter porte son fruit. Et donc, contrairement à ce qu'on peut penser, ceux qui sont, je dirais, aux avant-postes de la foi, eh bien, ce n'est pas forcément les pasteurs, car nous, finalement, nous avons la part belle, parlant à des personnes qui sont déjà, finalement, volontaires, mais c'est dans les familles qu'il y a un témoignage à porter. Donc, merci, chère madame, merci, Jean-François. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, et en particulier pour ton esprit qui habite au plus profond de chacun de nous, même si nous l'ignorons, mais qui nous rassure, qui nous fortifie. Merci pour ta parole qui nous guide vers toi et qui nous envoie vers les autres. Notre Père, nous te remercions particulièrement pour Jean-François Voyer, que ta grâce et sa foi nous permettent d'accueillir aujourd'hui. Grande est notre joie, plus grande encore, nous le savons, est la joie dans le ciel, si je puis dire, pour ce moment de foi, de confiance en toi. Que Jean-François, parmi nous, puisse grandir dans la foi, même si c'est à travers la distance géographique, et que par lui nous puissions grandir dans la foi, que sa démarche porte du fruit en nous, porte du fruit autour de lui, fortifie notre foi, réchauffe notre cœur, éclaire notre intelligence de la vie, stimule notre marche, donne-nous à nous-mêmes courage pour avancer, pour espérer, pour témoigner. Aide-nous à nous-mêmes, jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, à nous approcher sans cesse plus de toi, à être plus confiants dans ton esprit, à être plus au service des autres, en parole et en acte. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Merci beaucoup.
Chers frères et sœurs, en cette période estivale et cette période de vacances, on m'a demandé un peu de légèreté dans les thèmes de la prédication pour accompagner ce mouvement de la grâce. J'ai donc choisi d'engager une petite méditation autour d'un thème tout à fait léger dans la tradition chrétienne, Jésus descendu aux enfers. C'est dans la première épître de Pierre au chapitre 3 que je vais vous lire les versets 18 à 22. Première épître de Pierre, chapitre 3. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est allé à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Frères et sœurs, avant d'entreprendre une méditation sur ce texte, nous allons chanter le cantique 289, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 289. Levons-nous pour chanter. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Ainsi en est-il de ta parole, Éternel, notre Dieu. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Alors nous te prions pour que ce matin, elle vienne une nouvelle fois arroser et féconder notre terre, pour qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance, l'amour, pour qu'elle soit semence pour notre vie, pour qu'elle soit nourriture sur notre route. Chers frères et sœurs, je vais commencer par quelques précisions de vocabulaire de manière à ce que nous nous comprenions bien au sujet de ce que je vais dire sur le symbolique. Car à travers le symbolique et à travers le symbole, à travers ces termes-là, nous ne comprenons pas forcément la même chose. Et donc je ne vais pas vous donner la définition à laquelle il faut adhérer, mais plutôt essayer de vous dire ce que moi j'ai en tête pour que vous ne me prêtiez pas des propos que je n'aurai pas. Lorsqu'on parle de symbolique, bien souvent dans la langue générale, c'est pour désigner quelque chose qui ne nous engage pas beaucoup, qui n'engage pas beaucoup notre responsabilité, qui ne nécessite pas beaucoup de moyens et qui n'a pas beaucoup d'effet. Lorsqu'on parle d'une mesure symbolique, c'est pour désigner en général une décision qui ne nous a pas beaucoup engagés, qu'on a fait un peu à la légère. Mais le symbolique, qui utilise le symbole, peut avoir un autre sens dans une perspective philosophique, psychanalytique et a fortiori théologique. Le symbolique, c'est un outil avec lequel on essaie d'exprimer ce qui est de l'ordre de l'indicible. C'est ce qui va désigner indirectement un aspect de la vie qui échappe à nos sens, qui permet d'exprimer des vérités d'ordre non matériel. Dire qu'un individu est un être symbolique, cela ne voudra donc pas dire qu'il est insignifiant, un peu comme l'égal de la buée, mais qu'il a une vie au-delà des apparences, au-delà de ce qui est donné à voir, à entendre, à sentir, à toucher. Cela peut aller jusqu'à considérer les symboles dans le domaine religieux, jusqu'à être des épiphanies du divin, des symboles qui permettent de voir le divin, qui, vous le comprenez bien, n'est pas visible à l'œil nu. Sur le plan linguistique, il faut aussi faire quelques précisions parce que le symbolique nous fait forcément penser à ces symboles. Par exemple, en mathématiques, un trait nous renvoie à la soustraction. Dans d'autres registres, des plateaux, une balance, nous renvoie à la justice. Une fossile, un marteau, parlait du communisme. Eh bien, contrairement à cela, toutes ces images que je viens d'évoquer, le symbole n'est pas à comprendre comme une icône. Par exemple, si nous parlons de Marilyn Monroe, souvent nous en parlons comme d'un sexe symbole. Il serait plus juste d'en parler comme une icône. Elle a une apparence qui désigne quelque chose. Je parlerai du symbole comme le font un peu les romantiques, comme le fait le spécialiste des signes Umberto Eco, en disant que c'est un signe vague. Ça, c'est une définition que j'aime bien, un signe vague, qui n'est pas simplement un signifiant, une forme, et un signifié, le contenu, mais qui offre aussi une épaisseur de sens, qui offre un plus à comprendre que une forme et un contenu. Le symbole, c'est ce qui met en relation une collection de textes. Des textes qui peuvent être des discours ou des écrits, qui peuvent être des traditions d'interprétation, qui peuvent être des idées personnelles, c'est-à-dire des représentations personnelles d'une chose, d'une institution. Et lorsque nous parlons de la croix, par exemple, lorsque je vais dire que la croix est un symbole, ce ne sera pas pour dire que la croix, ce sont deux barres perpendiculaires. Ça, ce serait le signifiant, la forme. Ce ne sera pas pour dire non plus que la croix, c'est soit un supplice, soit le christianisme. Vous savez que la croix, c'est souvent un symbole, et là, c'est dans le mauvais usage, enfin, dans l'usage que je ne vais pas employer, la croix comme symbole du christianisme, en fait, c'est l'icône du christianisme. Voilà, quelques précisions très rapides, trop rapides, qui ne satisferont pas les sémioticiens et tous ceux qui sont versés dans la philosophie du langage, mais au moins nous avons une base de vocabulaire commune. Et nous allons maintenant pouvoir nous lancer dans le texte de Pierre. Donc, c'est ce texte à partir duquel la tradition chrétienne va dire que Jésus est descendu aux enfers, qu'il a fait un séjour parmi les morts et qu'ensuite il y a eu une résurrection. Donc le texte, pour s'en tenir à la lettre, nous dit qu'une fois mis à mort, le Christ a prêché aux esprits en prison, ceux qui n'ont pas profité de l'arche de Noé et qui sont donc morts pendant le déluge. Nous avons dans ces quelques versets une avalanche de symboles, le péché, Dieu, les esprits en prison, l'arche de Noé, l'eau, le baptême. Et tous ces symboles sont mis en relation pour créer un nouveau symbole, ce texte. Ce texte qui n'est pas ce qu'il y a de plus attirant comme texte biblique, précisément parce que il constitue une forêt de symboles assez impénétrable lorsqu'on n'est pas très équipé face au symbolisme. Ce sont les esprits en prison qui sont le symbole le moins familier pour notre assemblée. C'est donc sur lui que j'aimerais porter un peu notre regard. La chronologie des faits montre que le Christ rencontre ses esprits emprisonnés après sa mort. Il s'agit donc a priori de personnes défuntes. Et cette hypothèse est confirmée ensuite par l'indication que ces personnes sont celles qui ont succombé au déluge. Le déluge n'est pas un fait historique, au sens d'un événement qui aurait eu lieu à un moment donné de l'histoire, qui se serait déroulé selon le récit du livre de la Genèse. Par conséquent, la rencontre du Christ avec ses morts n'est pas non plus un événement historique qui aurait eu lieu matériellement. En disant que Jésus a prêché à ses morts, il faut donc abandonner l'image d'un cadavre réanimé qui discuterait avec des cadavres décomposés et réanimés. Ce que Pierre fait ici, c'est de créer du symbole, c'est de mettre en relation des individus morts à cause de leur incrédulité avec la prédication de Jésus. C'est le symbole de l'Évangile adressé aux mortels, au sujet duquel il est dit que leur condition est semblable à la condition d'un prisonnier. Pierre exprime ici que nous, en tant qu'humains, mortels, nous sommes morts à chaque fois que nous sommes comme prisonniers, que nous sommes comme ligotés, un peu à la manière de Lazare, ligoté dans ses bandelettes. Et souvent, dans les textes bibliques, la mort est représentée comme le fait d'être enfermé, prisonnier, ligoté. C'est une manière de dire que nous sommes morts à chaque fois que nous n'avons plus la capacité de nous mettre en relation avec autre chose que nous-mêmes. Lorsque nous sommes empêchés dans notre relation à l'autre, les esprits en prison font référence tout d'abord à l'esprit, qui est le souffle, le vent, et qui, dans la Bible, est ce qui nous met en relation, relation avec autre chose que nous-mêmes. Il y a donc d'un côté l'esprit vivant du Christ, et de l'autre, l'esprit en prison, nous les humains. Le texte précise que le corps de Jésus est mort. La tradition a parlé de Jésus descendu aux enfers. Ce terme n'existe pas au sens strict du terme dans le texte, mais ça correspond bien à cela dans notre imaginaire. La question c'est, qu'est-il donc allé faire dans cette galère? Eh bien, le texte nous répond en construisant un symbole qui donne à penser la croix. La croix, non pas réduite à ces deux barres perpendiculaires, mais la croix comme l'aboutissement de ce long processus qui va de la naissance de Jésus, en passant par sa prédication, jusqu'à son procès, la mise en croix et la mort. La croix comme symbole de ce que fut l'existence de Jésus. Non pas de l'alpha jusqu'au sigma, mais bien jusqu'à l'oméga, l'intégralité de son existence. La croix cesse d'être un supplice sous la plume de Pierre et devient une occasion de s'interroger sur le sens de la vie dans son intégralité. Pierre utilise la mort de Jésus comme une expérience à partir de laquelle il veut nous faire comprendre que le Christ nous a rejoints au cœur de notre humanité, au plus intime de notre condition, ne s'épargnant rien de ce que nous vivons. Il est allé au plus intime de notre condition, la mort, qui symbolise l'être humain. Si Pierre avait été Baudelaire, il aurait pu écrire « Bientôt, nous plongerons dans les froids de ténèbres. Adieu, vive clarté de nos étés trop courts, j'entends déjà tomber les chocs funèbres, le bois retentissant sur le pavé des cours. Tout l'hiver va entrer dans mon être. Colère, haine, frisson, horreur, labeur dur et forcé. Et comme le soleil dans son enfer polaire, mon cœur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé. » Pierre exprime que le Christ est le symbole de l'homme dans son entière humanité, jusque dans ses aspects les plus terribles, les plus angoissants, les plus malheureux. Pierre nous révèle que le Christ met à jour, ici, notamment, ce que Baudelaire appelait le spleen. Quand un ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis et que l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour plus noir, plus triste que les nuits. La croix est donc le symbole qui dit la capacité du Christ à mettre à nu notre humanité. Et il le fait pour que nous découvrions ce que les pasteurs d'autrefois, les pasteurs d'il y a un siècle, nommaient la contemplation de la croix. Il ne s'agissait pas dans leur esprit de se mettre à genoux devant la croix, d'adorer ses barres perpendiculaires et d'y trouver le cœur de l'Évangile. Il n'y avait pas une posture morbide dans leur esprit lorsqu'ils parlaient de la contemplation de la croix. Il y a plutôt à entendre l'effort de libérer aussi paradoxal que cela puisse paraître, libérer notre profonde humanité de toute forme de captivité. Parce que la croix agit comme un révélateur. C'est un révélateur qui met en évidence les mécanismes qui condamnent de façon injuste l'homme, les mécanismes qui le rendent captif, les mécanismes qui l'empêchent d'être lui-même. Le Christ est le symbole de notre humanité révélée. Et la croix nous donne une expérience que nous n'avons pas. Les évangiles augmentent notre expérience. Et on pourrait presque dire que se tenir au pied de la croix, c'est ce qui fait que j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Ceci étant, pourquoi le séjour parmi les morts? Pourquoi la descente aux enfers? À quoi bon cette saison en enfer du Christ? Eh bien, pour la raison que Baudelaire évoque par un trait qu'il qualifie lui-même d'orgueil. J'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or. Il est question de plonger dans la boue, de plonger en enfer, dans les entrailles du malheur, pour relever l'être, pour ressusciter la vie. Il s'agit de plonger dans le mal pour y chercher des fleurs, comme dirait Yves Lorraine. Et au fond, la contemplation du Christ, y compris du Christ dans cet épisode de la croix, ce n'est pas l'adoration d'une icône, mais l'exploration d'un symbole qui nous aide à penser notre existence. Et au fond, contempler le Christ dans cette perspective, c'est dire également « J'aime, ô pâle beauté, tes sourcils sourbaissés. » D'où semblent couler les ténèbres. Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent des pensées qui ne sont pas du tout funèbres. C'est ce qui nous conduit à l'expérience d'un plus à vivre qu'il n'y paraît, d'un plus à espérer qu'il n'y paraît. Cette fois, on pourrait le dire avec Rimbaud. On pourrait se dire qu'il y a là une invitation à être nous-mêmes voleurs de feu, saisir la vie éternelle, saisir notre chance. Et après avoir déchiffré l'humain, après l'avoir décrypté jusque dans la plus infime de ses articulations, jusqu'au dérèglement du moindre de ses sens, nous pouvons faire l'expérience digne d'un psalmiste qui est descendu dans les profondeurs de l'être et nous écrier, nous aussi, « Enfin, ô bonheur, ô raison, j'écartai du ciel l'azur qui est du noir et je vécus, étincelle d'or de la lumière nature. De joie, je prenais une expression bouffonne et égarée au possible, elle est retrouvée. » Quoi ? L'éternité ? C'est la mer mêlée au soleil. Mon âme éternelle, observe ton vœu, malgré la nuit seule et le jour en feu. Ici, le symbole fait son œuvre d'épiphanie du divin. Et ce que Pierre fait, dans un registre symbolique, qui évidemment ne saute pas aux yeux tant qu'on ne travaille pas le symbole au corps, c'est de nous raconter à nouveau Noël. Il le fait en évoquant l'eau du baptême, non pas donnée pour le pardon des péchés comme le fit Jean-Baptiste, mais pour l'engagement d'une bonne conscience en Dieu. Une bonne conscience en Dieu. C'est-à-dire la divinisation de l'homme, au sens de Nicolas Berdiaev. Et c'est donc là à nouveau le symbole de Bethléem. Non pas pour recommencer l'histoire, non pas pour effacer l'épisode de la croix, non pas pour gommer tout ce qu'il y aurait d'inique, d'injuste et de scandaleux, non pas pour reprendre à zéro et faire que cette fois ce soit joli. L'esthétique, ici, c'est de transfigurer ce réel-là. Ce n'est pas recommencer l'histoire, c'est nous permettre, nous, de la commencer. Un peu à la manière de ce que disait Théodore Monod, il y a encore un programme qu'on n'a pas encore vraiment essayé. C'est l'Évangile. Et au fond, ce que Pierre exprime dans cette lettre, à travers ce symbole que je qualifie de Bethléem, on pourrait le dire avec les mots de l'homme aux semelles de vent. Aujourd'hui, je crois avoir fini la relation de mon enfer. C'était bien l'enfer, l'ancien, celui dont le Fils de l'homme ouvrit les portes. Du même désert à la même nuit, toujours mes yeux las se réveillent à l'étoile d'argent. Toujours, sans que s'émeuvent les rois de la vie, les trois mages, le cœur, l'âme, l'esprit. Alors quand irons-nous, par-delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition, adorer les premiers, Noël sur la terre. Ici, Pierre nous plonge dans le symbole. Et l'Évangile nous est adressé pour que nous ouvrions les yeux sur un excès de réalité, sur une sorte de réalité augmentée, une réalité à laquelle il nous rend sensibles, comme le poète. Et une réalité qui nous fait vivre, qui nous fait agir, qui nous rend poètes, agissants, entreprenants. Ici, Pierre essaie de nous faire comprendre de quelle manière le Christ vide tout enfer de sa substance et nous permet de réinvestir notre être symbolique. Le symbole donne à penser. Penser notre condition, pas toujours très reluisante, pas toujours très honorable, glorieuse, mais fondamentalement agréée par l'Éternel. L'Éternel qui nous libère de ces prisons auxquelles nous sommes attachés, qui nous sauve de nos angoisses, qui nous sauve de nos pensées morbides et qui nous permet d'affirmer « Cela s'est passé et je sais aujourd'hui saluer la beauté. » Amen. Nous allons maintenant ouvrir dans notre recueil de chants, louanges et prières, la page où nous pourrons chanter « Reste avec nous, Seigneur », le cantique 372, les strophes 1, 2 et 3, qui évoque un autre moment particulièrement symbolique dans l'histoire biblique. C'est ce moment où des disciples en route vers Emmaüs cheminent avec le ressuscité, ne le reconnaissent pas. Jusqu'au moment où le symbole donne à voir. Leurs yeux ne voient plus, mais ils le contemplent. Donc, les strophes 1, 2 et 3 du cantique 372. Prenons place. Dans notre agenda, mercredi prochain, nous continuons à dérouler les mercredis de l'été. Chaque mercredi de 12h30 à 13h30, une lecture biblique. Mercredi, ce sera donc animé par mon collègue Marc Pernaud et ce sera sur Jésus et les femmes libres. Donc, amis féministes, cette heure est pour vous. Ensuite, dimanche, culte à 10h30, et là aussi c'est Marc qui prend donc le relais, puisque ce sera mon tour d'être en congé. C'est maintenant le temps de l'offrande, nous souhaitons qu'elle soit symbolique, non pas au sens où elle serait légère, vous voyez, mais symbolique au sens où elle serait chargée de tout ce que vous voulez et pouvez exprimer à travers elle. À l'issue du culte, nous serons tous invités dans la grande sacristie pour un verre fraternel qui permet de pouvoir faire un peu connaissance, de tisser un peu la communauté. Et c'est précisément dans un esprit de communion que nous nous recueillons maintenant dans la prière. Père, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Et c'est dans cet esprit que nous voulons te dire ces mots que Jésus a enseignés à ses disciples, en nous levant à la manière des ressuscités. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, la tendresse de l'Éternel, notre Dieu, est sur nous tous. Il affermit l'ouvrage de nos mains, il intensifie notre vie quotidienne dans toutes ses dimensions. Amen.